Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview. Émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, au studio, nous sommes en compagnie de Alice Corwen. Bonjour.
Bonjour.
Alice, vous êtes ici au nom de l'Agribiodrome, hein, l'association qui promeut et qui développe la nourriture bio, et donc une association qui a plus de 30 ans d'âge.
Oui, c'est ça, 32 ans également. Elle est née en 1987, donc c'était au début une petite structure. On est maintenant actuellement là 9 salariés, plus 2 stagiaires, donc on est une bonne équipe. Et vraiment les missions, donc en fait on est un groupement d'agriculteurs bio et on en retrouve en fait dans toute la France. On appelle ça les GAB, on se regroupe en réseau régional. Donc pour Rhône-Alpes c'est la FRAB, la Fédération Régionale de l'Agriculture Bio. Et après il y a aussi une fédération nationale. Mais voilà, on est en tout cas plus en lien au niveau régional. Et donc voilà, l'idée ça va vraiment d'œuvrer pour le développement d'une agriculture biologique cohérente sur le département, cohérente et solidaire après avec les agriculteurs et les consommateurs.
Alice, vous êtes-vous même agricultrice donc ?
Non, je ne suis pas agricultrice. Ah. Non, je ne suis pas agricultrice, mais par contre, l'ensemble de nos administrateurs sont des agriculteurs installés en activité.
Vous êtes 9 personnes hein, à agir au sein de l'association sous le mandat d'un conseil d'administration composé d'agriculteurs.
Voilà, c'est ça. Le CA est uniquement composé d'agriculteurs, 12 actuellement, si je ne me trompe pas. Et après, voilà, donc au niveau des salariés, il va plutôt y avoir certains avec plutôt un profil un peu d'ingénieur agronome qui vont être vraiment sur des questions techniques. Moi, pour ma part, je suis plutôt justement sur des missions un petit peu d'animation et de sensibilisation. Donc, je ne suis pas issue de formation agricole ou agronome. Après, voilà, il y en a 2 personnes sur l'administratif, donc on a des profils un peu variés.
Le projet de ce conseil d'administration vous dirige sur quelle notion de l'agriculture ou de la production bio ?
Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un petit peu... l'agriculture biologique fait face un peu à un défi. On a un peu finalement une agriculture biologique à 2 vitesses. Et c'est un défi justement pour nous, enfin du coup pour les GAB, d'essayer de défendre une agriculture, donc comme je disais, un petit peu cohérente, parce qu'on a aujourd'hui tout ce mouvement de l'agriculture industrielle, l'agriculture biologique industrielle qui se développe. Or nous, vraiment, ce qu'on a envie de mettre en avant, de développer et de défendre, c'est une agriculture biologique locale qui est voilà solidaire avec les paysans, avec un prix juste pour tout le monde, que ce soit du côté du champ et du côté de la fourchette également. Donc ça va être c'est l'idée donc de développer les filières, ensuite accompagner les agriculteurs dans leurs projets, que ce soit par des formations techniques ou par de l'accompagnement de projets collectifs. Comme par exemple, j'ai un collègue qui va inaugurer justement un abattoir. Donc c'est le plus petit abattoir, des plus petits abattoirs de France. Donc c'est un collectif de 12 éleveurs dans les Baronnies qui ont monté eux-mêmes leur projet d'abattoir pour justement revenir un petit peu, retrouver du pouvoir un petit peu dans la vie aussi de leurs bêtes. Donc voilà, ça peut être ou alors un magasin de producteurs, ce type de voilà. Ensuite, il y a un travail qui est fait avec les collectivités pour accompagner les collectivités justement dans leur projet de développement de la bio, ou la restauration collective hors foyer, les cantines, les restaurants scolaires. Et après, ça passe aussi par sensibiliser le grand public, donc notamment par cette campagne Manger bio et local, c'est l'idéal.
L'Agribiodrome, comme l'indique son nom, donc agit principalement sur le département de la Drôme. Pour vous, quels sont les secteurs d'activité qui vous donnent le plus de travail ?
On est sur beaucoup de volets parce qu'après, donc, il va y avoir 5 chargés de mission qui sont en général spécialisés par filière. Un est plutôt tourné justement sur l'arboriculture et la biodiversité. Et là, il a vraiment développé tout un projet, par exemple, d'installation, enfin d'autoconstruction avec les agriculteurs et de mise en place de nichoirs. Donc là, ils ont installé le 5000e nichoir dans les parcelles des agriculteurs, pour que ce soit pour les oiseaux, mais aussi des abris donc, pour les chiroptères, donc les chauves-souris. Donc là, on a un gros travail justement qui est fait sur la biodiversité. C'est un poste un petit peu en développement. Après, il y a un collègue qui est sur l'élevage, qui est aussi un poste important aujourd'hui, comme je le parlais juste avant, justement, un petit peu ces questions d'abattage qui reviennent pas mal sur le devant de la scène, avec des projets notamment pour revenir à l'abattage à la ferme ou prévoir des abattoirs mobiles sur le département. Qui vient un peu en réponse justement à ces débats sur les abattoirs qui s'étaient un petit peu industrialisés et donc les éleveurs qui reviennent un peu là-dessus. Ensuite, là, c'est vrai qu'un poste, comme je disais avant, c'est tout l'accompagnement de la restauration collective, notamment avec une loi qui est sortie donc à l'automne 2018, la loi EGalim, agriculture par l'agriculture et l'alimentation. Les restaurants collets, la restauration collective, va avoir justement un petit peu des objectifs pour augmenter la part de produits bio et locaux dans les repas des convives. Donc ça, c'est une des missions importantes.
Alice, vous êtes originaire de Die, donc vous avez baigné depuis jeune dans le bio, on peut dire.
C'est vrai qu'il faut dire que oui, en tant que Diois, on est quand même bien bien privilégié. Et moi, étant de Die, ouais, j'ai eu la chance d'être ici. On est quand même dans un secteur où on est assez préservé. On a une très belle offre en termes de diversité et aussi de qualité des produits. C'est vrai, qui n'est pas le cas sur tout le département de la Drôme, même si on est un des premiers départements bio de France en nombre de fermes. Mais oui, c'est vrai que moi j'ai baigné dans tout ça et l'alimentation a toujours été assez importante pour moi et ces questions d'agriculture me semblent un peu primordiales aujourd'hui, notamment dans la lutte aussi contre le réchauffement climatique.
C'est par héritage familial que vous vous êtes intéressé à l'agriculture bio ou alors c'est l'existence qui vous y a amené ?
C'est plutôt l'existence qui m'y a amené. Je dirais que oui, c'est pendant mes études en fait, pendant mes études où vraiment ces questions... parce que je me voyais pas forcément quand j'étais plus jeune travailler dans ce secteur-là. Mais après, de fil en aiguille, j'ai gravité un petit peu dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, et donc toujours impliquée dans certains projets qui essayaient de promouvoir justement une alimentation durable. Et ça coulait de source un peu pour moi d'essayer de travailler dans un secteur qui avait ces valeurs-là, même si après j'avais un grand-père agriculteur, mais c'est pas ça qui m'y a mené.
Donc, il va y avoir des animations qui sont prévues pour une période du 20 au 29 septembre sur le département, avec divers lieux. Le plus proche étant celui de Saillant, qu'est-ce qu'on pourra y découvrir ?
Oui, donc on a le magasin de producteurs Le Courbouillon à Saillant qui propose justement de faire en fait une rencontre dégustation avec les producteurs du magasin. Donc c'est un temps privilégié parce qu'il y a d'autres moments où il est possible de rencontrer les producteurs qui viennent faire leur permanence. Mais là leur envie était de faire un peu ce temps privilégié pour permettre l'échange et puis la dégustation de bons produits avec les producteurs qui fournissent le magasin. Après, c'est vrai que malheureusement, on n'a pas forcément d'événements dans le Diois. On en a eu l'année dernière. Peut-être qu'on en aura l'année prochaine, ce que j'espère. Il y a d'autres... c'est pas mal tourné justement vers pas mal de magasins, comme donc des biocoop, des épiceries associatives et des magasins de producteurs qui proposent des rencontres dégustations avec leurs producteurs. On a un petit peu moins d'animation sur les fermes directement pendant cette campagne. Après, il y a un autre événement organisé par le CIVAM chaque année qui est De Ferme en Ferme, qui a une grosse ampleur, où là, c'est une autre occasion pour aller rencontrer les agriculteurs sur leurs fermes. Donc là, c'est plutôt de mettre justement en avant restaurants, les circuits courts alimentaires, donc justement tous les marchés, la vente directe, les magasins de producteurs, les biocoop qui soutiennent cette campagne, et aussi bah, justement tous les restaurants scolaires qui font cet effort tout au long de l'année.
Enfants ont récupéré souvent les restes de cantines ou de restaurants pour les donner aux cochons ou alors aux poules ou poulets, j'en sais rien. Est-ce que ça, c'est une action qui se met en place ou qui existe toujours ?
Eh ben, alors là, il y a ce qui est...
C'était par rapport à l'économie circulaire,
oui.
manière à réduire
ouais.
les coûts et les déplacements.
Oui. Ben, c'est un des gros travaux. Donc après, justement, l'idée, c'est pas qu'il y ait trop de compost à pouvoir donner après à potentiels animaux, même si c'est une solution avec ce qui peut rester. Mais justement, quand on fait ce travail avec les restaurants collectifs pour justement augmenter la part de produits bio et locaux dans les repas, parce que voilà, c'est vrai que des produits bio vont coûter plus cher finalement, même si c'est pas toujours le cas. Hein, dès qu'on achète au plus direct, c'est pas toujours vrai. Mais après, ce coût est justifié aussi. Mais du coup, l'idée, ça va justement être de réduire au maximum le gaspillage, parce qu'on voit que dans les restaurants scolaires ou collectifs, il y a parfois un gaspillage qui est énorme. Et justement, des restaurants ont prouvé qu'en réduisant au maximum le gaspillage, ça faisait une économie importante qui permettait justement ces économies de pouvoir les mettre pour justement améliorer les produits achetés, la qualité des produits.
À l'heure actuelle, comment fonctionne donc le marché de la restauration scolaire ?
Ben c'est vrai que souvent il y avait cette habitude de donner en fait des portions justement quand on parlait du gaspillage, donner des portions définies déjà aux enfants en fait. Il y avait voilà, on prend son entrée, on prend son plat et l'enfant n'a pas vraiment son mot à dire, enfin ou l'enfant ou l'adulte hein, des fois dans certains restaurants collectifs sur la quantité qui lui est attribuée. Et justement ceux qui arrivent à faire un gros travail de lutte contre le gaspillage alimentaire, et ben ils sont revenus justement à par exemple pour tout ce qui est les entrées et les desserts. En fait c'est les enfants qui se servent. Il y a tous les grands plats et les enfants vont eux-mêmes se servir d'entrée. Donc, ils servent la quantité qu'ils veulent. Il y en a même qui vont jusqu'à faire des quartiers de fruits, parce que des fois, un enfant, enfin une pomme, même pour un adulte, c'est beaucoup. Donc voilà, certains quartiers. Et après, pour les plats chauds, l'enfant peut demander s'il en veut plus ou moins ou pas. Et le pain n'est plus non plus en libre service comme ça. Il y avait parfois beaucoup de gaspillage sur le pain. Et du coup, il y a un gros travail qui est fait là-dessus. Donc aussi sur, en fait... autonomiser aussi l'enfant dans la constitution de son plateau. Et en fait, ça a vraiment montré un fort succès dans justement éviter le gaspillage alimentaire.
Donc une observation est faite sur comment est gérée l'alimentation des restaurants hein, de la part de Apicribiodrome en quelque sorte.
Voilà, parce que ça fait déjà nombreuses années qu'il y a des restaurants scolaires accompagnés, notamment avec le programme « Ça bouge dans ma cantine » sur la communauté de communes de la vallée de la Drôme, donc la CCVD. Et donc un gros travail a été fait. Donc après, avec les années, on peut voir aussi justement ceux qui sont dans le programme depuis pas mal de temps, et comment ils ont réussi, quels ont été leur levier de réussite là-dedans, pour ensuite donner des idées et des exemples à ceux qui s'y lancent.
Alors bio et local, j'imagine qu'en Drôme, tous les endroits de la Drôme ne sont pas dotés en culture bio, par exemple, à l'heure actuelle. Et est-ce que vous y remédiez ? Ou est-ce que vous développez ce qui peut déjà exister ?
Ben là, c'est vrai qu'on va pas mal travailler quand même avec des collectivités. Enfin, je peux le dire qu'on a quand même des collectivités sur le département qui vont être bien engagées quand même pour le développement justement d'une agriculture plus durable. Donc ça va passer par le développement de l'agriculture biologique. Et donc je pense que c'est quand même une chance, que ce soit par exemple sur... c'est vrai qu'ici on a déjà toute la bio-vallée, donc qui de fait va être un petit peu essayer de se mobiliser là-dessus. Et même sur le secteur de Valence-Romont-Aglo, les collectivités se mobilisent. Et donc après, Agribiodrome, on les accompagne, on va être prestataire de ces structures pour accompagner. Ça peut être accompagner des agriculteurs qui ne sont pas encore en agriculture biologique et qui souhaitent se convertir. ou encore voilà, essayer de développer la filière. Et on parlait justement de restauration collective. Il y a une forte demande, notamment avec cette loi que j'évoquais tout à l'heure. Il va y avoir une forte demande en produits bio et locaux, par exemple, notamment en légumes secs, parce qu'il va y avoir aussi cette idée d'introduire plus de produits, de menus avec des protéines végétales, menus végétariens. Et du coup, il y a une filière en fait qui va être où il va y avoir de la demande. C'est justement la filière des céréales et des légumes secs et des légumineuses. Et après, justement, les restaurants vont travailler avec des plateformes comme Agricourt, qui fait le lien avec les restaurants. Et là, on a, ils nous font part justement de cette demande. Et donc après, ils nous incitent à inviter des agriculteurs à aller vers ce type de production.
Agribiodrome gère tous les types d'aliments. Hein.
Alors, on n'est pas...
Par exemple, les produits à base de lait, ça, c'est moins évident.
Eh bien, alors sur la Drôme, il y a notamment le syndicat Caprin qui va plutôt justement travailler avec les éleveurs. On a des syndicats Caprin et syndicat Ovin. Donc nous, on ne travaille pas forcément justement sur ces thématiques-là parce qu'il y a déjà ces structures pour accompagner les éleveurs. Après, voilà, on est plus sur l'élevage ovin ou l'élevage de volaille. Sur l'apiculture, la viticulture, le maraîchage, les grandes cultures, donc comme les céréales et l'arboriculture. Mais on n'accompagne pas les producteurs justement sur l'élevage laitier, sauf plutôt le bovin. Mais voilà, on a d'autres structures sur la Drôme qui accompagnent cela.
Déjà, les produits à base de lait sont des produits transformés. Donc vous vous limitez peut-être à ce type de produits, vous ne les prenez pas en compte?
Alors, c'est pas forcément une question de produits se transformer ou non, parce que parfois on accompagne aussi justement des producteurs dans leur démarche de transformation. Par exemple, de monter un atelier de découpe collectif, ça pourrait être accompagné justement des agriculteurs dans le montage d'une conserverie. Donc c'est pas forcément, voilà, on va pas forcément s'arrêter aux produits bruts, et puis ça peut être aussi justement donner des conseils au niveau par exemple de la certification pour avoir le label AB, l'Eurofeuille européenne. Ça peut être justement accompagner des transformateurs ou des distributeurs, parce que la certification se fait à toutes les étapes.
Et puis la Frabora, on peut l'aborder aussi, c'est donc au niveau régional, vous en faites partie, donc forcément.
C'est ça, donc tous les GAB, donc tous les groupements d'agriculteurs bio du département en font partie. Donc bon, alors nous, sur il n'y a pas un GAB par département, à sachant qu'il y a quatre départements qui sont réunis en un seul GAB. L'Isère, je vais dire une bêtise, je suis plus sûre des quatre départements. Mais voilà, on a un petit peu moins de GAB que de départements sur Auvergne-Rhône-Alpes. Mais donc on s'était agrandi récemment avec la fusion des régions. Et donc, c'est vraiment l'idée de faire du lien et qu'il y a des projets qui se développent à l'échelle régionale.
Ça ne pose pas de problème, justement, qu'il y ait quatre départements qui soient représentés que par un seul GAB? Ça n'a pas été imposé ou sur le fait accompli, non?
Non.
Ça s'est fait d'emblée.
Ça s'est fait d'emblée quand il n'y avait pas forcément justement un GAB dans un département. Et du coup, certains représentaient les deux départements. Non, mais ça n'a pas été imposé. Non.
Vous avez le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Qu'en est-il à l'heure actuelle?
En effet, sur cette campagne Manger bio et local, la région Rhône-Alpes nous soutient encore. Après, donc à l'échelle des autres actions, c'est pas forcément la région qui est un de nos principaux partenaires, mais voilà, on va avoir des soutiens. Nous, sur la Drôme, du coup, du conseil départemental de la Drôme, on a les collectivités comme des communautés de communes ou des agglos qui nous soutiennent. Et après, il y a aussi des financements plus grands comme l'État, ou voire des financements européens qui soutiennent certaines actions.
Pour le département, c'est pareil. Hein. Donc, le département est très engagé aussi sur la politique de l'agriculture bio.
Oui, et il continue de s'engager. Notamment, il avait mis, là c'est plus dans mon domaine, donc je serais plus à même d'en parler. Mais il y avait tout un programme en fait auprès des collèges, qui était donc le programme Manger mieux, manger bio, donc à destination des restaurants scolaires de tous les collèges de la Drôme, donc il a soutenu et il continue de soutenir justement un petit peu ce travail avec la restauration collective et qui se couple aussi avec plutôt des soutiens pour des actions un petit peu de sensibilisation comme un projet du territoire à l'assiette auprès des collégiens de la Drôme qui permettent de mettre en place des animations et des visites de ferme avec des collégiens du département.
Justement, l'éducation nationale, existe-t-il un pont avec AgriBiodrome pour amener des animations autour de l'agriculture dans certains cours, par exemple ?
Eh bien, justement, via ce projet donc du territoire à l'assiette, en fait, le département propose des actions éducatives à destination des collèges. Après, c'est au bon vouloir finalement des enseignants. Les enseignants qui sont intéressés par la démarche peuvent justement faire la demande pour bénéficier de ces actions éducatives. Les actions éducatives, il y en a dans tout type de secteur. Hein. Ça peut être la culture, culture, cinéma, biodiversité, sortie nature. Et donc aussi, voilà, cette action à laquelle on participe et qui permet aux élèves, on met en place des animations en classe et après, on sort avec eux à la ferme pour être vraiment sur le terrain.
On parlait de restauration, donc, et pendant cet automne, donc, vous proposez une campagne de tournée hein, avec des repas bio qui seront proposés dans des établissements scolaires. Ça commence à partir du 20 septembre et jusqu'au 17 octobre. Tous ces renseignements, on peut les trouver sur le site, hein, votre site qui est...
Oui, donc vous pourrez retrouver justement tout le programme de la campagne, que ce soit pour le département de la Drôme, mais aussi donc toute la région Rhône-Alpes, car il y aura plus de 200 animations sur toute la région pendant la campagne, sur le site www.bioetlocal.org.
Et donc, cette tournée des cantines avec des repas bio, c'est un désir partagé avec les établissements ?
Oui, ben justement, comme je disais, il y a déjà des établissements qui sont engagés dans ce travail pour améliorer un petit peu, enfin augmenter l'approvisionnement en produits bio locaux dans leurs repas. Et du coup, ben, cette campagne est l'occasion pour organiser un repas un petit peu plus particulier où on fait, voilà, il y a un petit peu de communication qui est faite justement sur le travail, mais qui est faite tout au long de l'année pour faire justement pour communiquer là-dessus et informer, que ce soit les convives, mais aussi les personnels des établissements, les parents, sur ce qui se fait au sein du restaurant toute l'année.
Pour cette période du 20 au 28, en plus des commerces qui proposent des produits bio, il y a aussi d'autres rencontres à avoir avec des producteurs directement chez eux.
Oui, c'est ça. Il y a quelques producteurs qui ouvrent leur ferme. Donc, ce sont généralement des producteurs qui pratiquent la vente directe ou en tout cas voilà, vendre leurs produits en circuit court. Donc là, ils ouvrent leur ferme et l'idée, c'est de proposer une animation à destination du grand public. Tout âge, enfin, ils arrangent un petit peu l'animation comme ils souhaitent. Et donc là, on a Stéphanie Blasius, donc à Livron-sur-Drôme, qui propose une visite de ses vergers et un atelier pour enfants du pépin à la pomme pour justement... elle a prévu une petite animation créative pour les enfants.
Et puis la découverte de plantes aromatiques aussi et de safran. Ça, c'est pour un autre endroit, hein.
Je crois que c'est
à Bourg-les-Valences.
Voilà, à Bourg-les-Valences, les arômes de Genat qui justement proposent la découverte donc des plantes aromatiques, bien connues pour nous dans le Diois, mais pas partout sur le département. Et donc une culture un petit peu plus particulière, celle du safran.
Juste une question, on n'a toujours pas trouvé la machine à cueillir le safran ?
Je crois pas.
Non. Il y a au moins 35 ans, j'entendais parler de chercheurs qui essayaient de trouver une machine pour recueillir le safran. Et apparemment, ils n'ont pas trouvé. C'est très compliqué, je pense. Ce sous-titre, hein, « Manger bio et local, c'est bon pour le climat ». Manger bio, on imagine bien les bienfaits, hein, de toute manière. Local, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les territoires, en général, ont tous les produits sur place ?
Alors sur la Drôme, on est quand même très bien loti parce qu'on a quand même une grosse diversité de production. On trouve que ce soit des fruits, des légumes, de l'élevage laitier, l'élevage pour la viande, des céréales, des légumes secs et tout ça. Donc c'est vrai que sur le département de la Drôme et le Diois, on est assez bien fourni. Malheureusement, c'est pas le cas dans tous les départements, mais en tout cas on a cette chance ici sur la Drôme. C'est vrai qu'on peut y trouver une diversité de produits et en bio, on peut trouver ces produits en bio et local parce qu'on a quand même, si on veut être un petit peu sur du chiffre, il y a 22% de la surface agricole utile du département de la Drôme qui est cultivée en agriculture biologique contre 6% au niveau national. Donc c'est vrai qu'on est quand même, bon là-dessus. Et c'est vrai que, donc en effet, on a ce sous-titre « C'est bon, manger bio local, c'est bon pour le climat ». Chaque année, la campagne se donne une thématique. Et cette année, on a choisi justement le climat, un petit peu notamment quand même dans ces actualités où on parle beaucoup du réchauffement climatique. Et c'est vrai que l'idée, c'était vraiment donc, de mettre en avant les points forts de l'agriculture biologique dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Alors, qui dit agriculture dit aussi eau, hein, l'arrosage. Est-ce que les politiques actuelles par rapport à la préservation des sites d'eau ou de sa consommation, vous êtes sollicité par ces organismes pour demander votre besoin ?
Alors il y a eu en effet l'agriculture a quand même l'agriculture conventionnelle a un très fort impact sur nos ressources en eau parce que par exemple il y a 93% des cours d'eau qui sont ou des nappes qui sont contaminées en fait par au moins certains produits pesticides chimiques, produits chimiques de synthèse. Et donc il y a notamment un travail qui avait été fait donc sur le territoire de Valence-Romont Aglo avec l'agence de l'eau pour justement faire un diagnostic parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait il y avait une quantité de nitrates dans les eaux de ce territoire qui était très importante. Et donc l'idée c'était justement donc ce territoire, et c'est pour ça qu'il est un petit peu parti aussi dans cette dynamique de essayer de convertir le plus possible en fait de terres agricoles en agriculture biologique, notamment pour préserver ces ressources en eau. Donc Agribiodrome a travaillé a pas mal travaillé avec ce territoire pour justement travailler avec les agriculteurs, que ce soit agriculteur bio ou non bio, pour essayer de convertir au maximum de terres.
Il y a un accueil plutôt favorable d'Agribiodrome au niveau des agriculteurs en général.
Alors, des agriculteurs bio, oui. Après, c'est vrai que, avec justement, quand on parlait de ce programme, c'est pas toujours facile, en fait, quand il y a quand même un changement d'habitude, de mentalité, tout ça qui doit être fait, et le chemin peut parfois être long. Donc c'est sûr que c'est pas toujours évident de travailler, d'approcher, en tout cas, des personnes qui seraient pour l'instant pas encore tout à fait prêtes à ce changement.
Et ça, c'est donc une de vos fonctions, c'est d'aller vers l'agriculteur pour l'amener à produire plutôt bio. Et c'est de votre compétence ?
Alors oui, il y a un des programmes justement, mais qui n'est plus aussi présent à l'heure actuelle qu'il l'était il y a 2 ans, mais un programme justement de rencontre en fait, qui était prévu avec des agriculteurs, mais qui... En fait, vraiment pas dans l'idée. L'idée, c'est pas de se poser en fait en moralisateur ou d'arriver avec « Ah, mais il faudrait ci, il faudrait ça ». Mais plutôt, l'idée, c'était plutôt de faire un diagnostic. Donc, de rencontrer justement des agriculteurs qui ne sont pas en agriculture biologique pour faire un diagnostic avec eux sur leur ferme, où ils en sont dans leur pratique. Est-ce qu'ils sont dans cette démarche ou non d'aller vers une conversion en agriculture bio, ou est-ce que c'est pas encore le moment pour eux, mais ça le sera peut-être plus tard, ou alors ils en sont pas encore là. Donc voilà, c'était plutôt en fait des rencontres et pour justement discuter sans imposer quoi que ce soit.
Et puis la présence des productions bio, donc on les trouve notamment dans les boutiques spécialisées, sur les marchés, on peut les trouver couramment, dans les grandes surfaces, il y a des rayons dédiés à ça. Mais est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail dans la distribution de manière à pouvoir généraliser ces productions bio dans la consommation ?
Alors justement là, on fait face un petit peu à une difficulté, parce que c'est vrai que l'envie, c'est de généraliser, de faire qu'une alimentation saine et de qualité soit accessible à tous. Après, malheureusement, finalement, on voit que dans la grande distribution, on va retrouver ce problème des marges, finalement. Et que donc, le bio va peut-être être coûter un petit peu plus cher à la production, pour des raisons justifiées, mais après, si la grande distribution continue de mettre des marges, dans les supermarchés, les produits bio vont se retrouver finalement très chers. C'est pour ça qu'on essaye, nous, au maximum, de promouvoir les circuits courts alimentaires, notamment par cette campagne. Donc, que ce soit justement la vente directe, sur les marchés, à la ferme ou via les magasins de producteurs, en essayant qu'il y ait le moins d'intermédiaires possible, parce que c'est dans ce cas-là qu'on arrivera à avoir un prix juste pour le producteur et pour le consommateur, en réduisant justement tous ces intermédiaires qu'on peut retrouver dans la grande distribution.
Et puis je vois toutes les animations proposées sur cette brochure, la plupart donc du département. On y dénote quand même l'absence du Diwa, parce que il n'y a rien à y faire, c'est déjà accompli pour le Diwa.
Eh ben je sais pas, c'était ma question. Bon, c'est vrai qu'on est plutôt bien lotis. Je pense qu'on est dans un petit territoire parfois aussi un petit peu isolé, un peu préservé, où on a quand même une offre de produits bio et locaux de qualité facilement sur le marché, proche de chez nous. On a un petit territoire. Après, on peut toujours aller plus loin, et parce qu'il y a encore du chemin à faire. Et comme tout à l'heure, on parlait justement de réchauffement climatique. climatique. Il y a certains grands scientifiques qui disent que, en fait, sans agriculture, sans vraiment une agriculture biologique assez généralisée, on n'arrivera pas à tenir les objectifs que, en tout cas, les États se sont mis pour justement le climat et la lutte contre le réchauffement climatique. On n'y arrivera pas sans agriculture biologique parce que un quart des émissions de gaz à effet de serre mondiales sont produites par l'agriculture, que 24% de l'empreinte carbone des ménages provient finalement de l'alimentation. Et donc, c'est vraiment une grosse part. Donc, il y aura toujours du travail, je crois.
Est-ce que vous avez des approches aussi avec le jardinier amateur qui est un probable utilisateur de produits, justement? Est-ce que vous opérez une certaine pédagogie auprès de ces personnes?
Donc c'est vrai que le gros du travail de l'association est fait donc avec les agriculteurs et pour les agriculteurs, donc plutôt les professionnels donc dans l'agriculture. Mais après on a aussi donc mon poste en fait finalement plus des missions justement de sensibilisation donc du grand public sur les questions agricoles et alimentaires. Donc on a différentes actions menées. Donc ça peut passer justement avec des établissements scolaires, mais aussi avec des maisons de quartier, des MJC, des centres sociaux qui ont des projets justement pour aborder ces questions donc agricoles et alimentaires. Et donc là on peut mettre en place des projets, ça passe par des ateliers jardin, des ateliers cuisine, des soirées débats et ce type de moments.
Quelles sont les actions il y a les producteurs avec lesquels vous travaillez donc, et puis ensuite les consommateurs. Vous allez au devant d'eux, et à quel moment vous parliez de fêtes ou de rencontres ou d'animations? Est-ce que ça va au-delà de la consommation simplement?
Ben non, parce que ça va aller au-delà. Même c'est vrai qu'avec cette campagne, là, manger bio et local, c'est l'idéal. Ça peut-être que parfois le message peut être pris justement comme un petit peu moralisateur, je dirais, d'une certaine manière. Mais vraiment, là, l'idée, en fait, plus qu'inciter à manger bio local, c'est vraiment de mettre en lumière, en fait, tous les bienfaits, justement, de ces productions et des circuits courts alimentaires sur tout plein de pans. Ça peut être, justement, l'économie circulaire, la vie du territoire, la préservation de l'environnement. Donc, c'est faire prendre conscience qu'en fait, justement, par manger, consommer, ça peut être un acte, c'est un acte citoyen, et on peut nous-mêmes à petite échelle participer à la vie justement de son territoire dans ce sens-là.
Est-ce qu'on reviendrait en finale avant les 30 Glorieuses où chaque village avait ses commerces comme ça n'existe plus trop aujourd'hui? Est-ce qu'il y aurait une politique de repeuplement de toute manière des campagnes certainement d'amener les commerces qui en découleraient? Ça, c'est des choses qui se parlent comme ça, comme des vieux rêves.
C'est vrai que j'ai l'impression qu'on est un petit peu qu'il y a deux mouvements contradictoires, dans le sens où quand même j'ai l'impression que sur les territoires justement les citoyens reprennent ont envie en tout cas de faire revivre leur village. Je pense que dans le Diois on est quand même un bon exemple pour ça. On a des petits villages qui vont avoir leur bistrot, leur épicerie associative et qui justement avec des citoyens qui essayent de refaire vivre des villages qui avaient perdu un peu vie et en même temps une urbanisation qui continue en fait avec des politiques publiques donc de plus grande échelle qui malheureusement ne favorisent pas trop ça et continuent justement ce chemin un peu de l'urbanisation et donc à tuer un petit peu à petit feu justement notre monde rural. Mais j'espère que justement toutes ces énergies citoyennes vont réussir à continuer cette dynamique.
Donc, la chaleur et la sécheresse qui sont présents depuis quelques années en France, est-ce que, justement, il existe une politique autour de l'eau et de sa préservation ?
Bah, c'est vrai que oui, en effet, on voit bien qu'il y a des changements, que les changements climatiques sont malheureusement, on ne sait pas trop finalement à quoi s'attendre, et les agriculteurs non plus. Après, ce qu'on sait, c'est que l'eau va se raréfier, qu'il va faire de plus en plus chaud et sec, et donc il va falloir justement que les agriculteurs sachent s'adapter. Cette ressource en eau, je pense que là, il y a pas mal de communes et de territoires qui en prennent conscience, et on voit notamment en ce moment donc un petit peu tout ce mouvement des maires frondeurs qui proposent des arrêtés municipaux où ils demandent justement aux agriculteurs de ne pas mettre de pesticides à moins de 150 mètres des habitations, voire parfois des cultures en agriculture biologique, notamment par exemple donc le maire de Sous récemment début septembre qui a pris donc cet arrêté municipal avec son conseil. Donc pour ces zones de non-traitement. Bien sûr, après, ça, c'est normalement une compétence du ministère de l'Agriculture. Donc ce sont des arrêtés municipaux rétorqués par les préfets. Mais ça a quand même, je pense, finalement, ça fait un petit peu un gros coup de com'. Et là, il y a pas mal de municipalités, dont des grandes villes, qui suivent un peu ce mouvement. Et du coup, ça fait un retentissement qui, je pense, est nécessaire pour renforcer un peu ce mouvement-là. Je peux peut-être faire un petit parallèle, mais on voit, c'est vrai, l'autre jour, étaient des décrocheurs, des portées de Macron qui se sont fait relaxer à motif d'état de nécessité et motif légitime. Donc finalement, ces maires frondeurs s'inscriraient un petit peu dans ce mouvement-là, et c'est vrai qu'on est dans un état de nécessité au vu des changements climatiques qui nous attendent.
D'ailleurs, on parle de région, du département, mais quelle est l'implication de l'État et comment a-t-il évolué depuis quelques années sur la politique bio, par exemple ?
C'est une question un petit peu compliquée, parce que c'est vrai que l'État, que je vais parler en mon nom, parce que je ne vais pas parler en nom de ma structure et de mes administrateurs sur cette question, mais c'est vrai que s'affiche avec justement des objectifs pour le climat, des lois sur l'agriculture et l'alimentation, les états généraux de l'alimentation, et prend un certain nombre de mesures et de lois qui derrière, il faut le dire quand même, vont découler justement, on va y avoir justement des financements et des choses comme ça qui vont nous après pouvoir justement permettre de mettre en place des projets au niveau local sur certains territoires. Mais après, on voit que justement, les vraies grandes mesures importantes interdire le glyphosate ou interdire le pesticide à moins de 150 mètres des habitations, l'État démarre une consultation publique donc justement sur un projet de décret pour interdire l'épandage de pesticides à moins de 5 mètres des habitations. Bon, 5 mètres, autant se dire qu'en fait, c'est rien. Donc voilà, il y a certaines grandes mesures qui, malheureusement, ne sont pas prises.
Oui, un pouvoir un peu entre deux chaises. On peut dire, de ne pas reconnaître la dangerosité, justement par l'interdiction des décrets municipaux, et en même temps d'élargir cette bande de sécurité, de propagation de produits proches des habitations, en passant de 5 à 10 mètres. Donc, à qui se fier ?
C'est ça, surtout qu'il y a des grosses structures comme l'INSERM qui avait justement montré cette corrélation entre pesticides et pathologies graves chez l'adulte et chez l'enfant. Il y a par exemple le Parkinson et un cancer du système immunitaire qui avait été reconnu comme maladie professionnelle pour les agriculteurs du fait des pesticides, parce qu'il faut le dire, les agriculteurs, c'est les premiers touchés, c'est les premiers finalement qui souffrent un petit peu de ce danger-là. Dans les chiffres, en fait, les chiffres sont là, mais derrière, les mesures qu'il faut ne le sont pas.
Alice, je vous remercie d'être venue nous parler donc de cette action de AgriBiodrome qui s'appelle donc Manger bio et local, c'est bon pour le climat. Vous aurez tous les renseignements sur le site internet donc bio et local toutattaché.org.
Prenez plaisir à manger et faites-vous plaisir, parce que manger, c'est ça aussi.
Bonne soirée.
Bonne soirée, merci.
Au revoir.